Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch Le Ravi Radio Grenouille. Le mensuel Le Ravi, c'est dans tous les kiosques de la région, les premiers vendredis du mois. La Grande Tchatch, c'est tous les quatrièmes mardis du mois sur les 3-8. Le Ravi, c'est également un site internet www.leravi.org, site où vous pourrez consulter certains articles, mais également vous abonner en ligne, et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors, un numéro de la Grande Tchatch un petit peu exceptionnel aujourd'hui, puisqu'on est entre les deux tours des présidentielles, on reçoit Olivier Ferrand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes abonné au Ravi ?
Oui, je suis abonné au Ravi.
Excellente chose, Olivier Ferrand. Donc, Énarque, candidat dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, une nouvelle circo issue du redécoupage 2009. Avec moi pour présenter cette émission, Michel Guéraud et Rafi Hamal. Donc, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité. Et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Que nos auditeurs soucieux de préserver le niveau d'excellence de cette émission nous pardonnent. Car notre invité n'a même pas fait Polytechnique, ni Pont des Chaussées, ni les Mines, ni Saint-Cyr, ni Naval, ni Normale Sup. Mais toujours soucieux de promouvoir l'égalité des chances, nous avons tout de même décidé, Olivier Ferrand, de vous offrir une heure d'antenne. Et qu'importe si vous n'avez en poche que les diplômes de Sciences Po Paris, d'HEC et de l'ENA. Répondre au feu des questions des journalistes du Ravi, le mensuel régional d'investigation et de satire de la région PACA, sur l'antenne de Grenouille, la radio qui pulvérise tous les records d'audience à la friche de la Belle de Mai, est objectivement très impressionnant. Détendez-vous, oubliez le contexte, faites comme d'habitude lorsque vous chroniquez et débattez sur l'antenne de France Info, de LCI, de BFM TV ou que vous envoyez négligemment votre dernière tribune au Monde ou à Libé. C'est la même chose en politique, restez cool. Le PS, toujours attaché à donner un coup de pouce aux petits jeunes, cherche depuis des années à trouver le bon terreau pour que vous puissiez vous épanouir. Cela finira par marcher. En 2001, à 32 ans, vous avez été nommé maire adjoint du 3e arrondissement parisien. En 2007, à 38 ans, Solferino vous parachute dans les Pyrénées-Orientales lors des législatives. Les autochtones sont mécontents, un élu du CRU organise la dissidence, vous êtes éliminé au premier tour, fin du bizutage. Et vous voilà, cette année, à 42 ans, investi par la direction nationale socialiste dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône. Là aussi, il n'y a pas que des heureux. Michel Tonon, le maire PS de Salon-de-Provence, éructe, s'insurge, se fait exclure et finit par plier. À gauche, on vous traite de coucou, à droite, de touriste. Vous avez beau jeu cette fois-ci de rappeler que vous êtes né à Marseille, que votre famille habite le département depuis deux siècles, que votre arrière-grand-père était le maire de Velot et que votre arrière-arrière-grand-père a présidé le Conseil Général. À ce dernier appel, curieusement, un vent de panique souffle sur la fédé du 13. Mais pour qui vous prenez-vous ? Pour le président fondateur du think tank Terra Nova, peut-être. Je ne parle pas de la mauvaise série de Spielberg, mais de la boîte à pensée ultra-médiatique qui s'est modestement fixée pour objectif de redéfinir la matrice idéologique de la social-démocratie. Rien que ça. Vous vous prenez peut-être aussi pour ce brillant diplômé habitué à conseiller les puissants. Lionel Jospin, alors Premier ministre, Romano Prodi, président de la Commission européenne, Dominique Strauss-Kahn, avant qu'il ne rejoigne la page Faits divers. Vous vous prenez sans doute pour un de ceux qui ont imaginé le processus des primaires, jadis décrié, aujourd'hui envié. Bref, je résume, vous vous prenez pour Olivier Ferrand, c'est grave. Un conseil amical, va falloir vous calmer.
Olivier Ferrand, un commentaire à ce portrait ?
Non, assez honnête, très bien.
Pas de schizophrénie ?
Pas de schizophrénie, j'assume à peu près tout là.
Alors comme je le disais en introduction, on a la chance dans cette émission, on est entre les deux tours, donc on a le résultat du premier tour. Vos commentaires, François Hollande en tête, Sarkozy pas très loin derrière, et finalement la surprise, est-ce que ça en est vraiment une ? C'est le score relativement haut du Front National, et surtout sur tout le territoire national.
Oui, le premier élément, c'est la victoire de François Hollande, enfin le fait qu'il soit premier au premier tour. C'est important parce que là, toute la stratégie de Nicolas Sarkozy, c'était de terminer premier au premier tour pour avoir une dynamique. Il avait fait en sorte de ne pas avoir de concurrent au sein de son espace, la droite de gouvernement, il restait que Dupont-Aignan, alors qu'en face à gauche, François Hollande avait évidemment des concurrents de la gauche, que ce soit Mélenchon ou Eva Joly. Malgré tout, Hollande l'emporte, c'est de très bon augure pour le second tour. Le deuxième élément évidemment très fort de ce premier tour, c'est le score score de Marine Le Pen. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sur le terrain, ça fait longtemps qu'on l'avait senti. La campagne de Marine Le Pen a flotté au milieu parce que, à mon sens, elle a fait une campagne assez moyenne et notamment elle a fait campagne sur ses faiblesses, c'est-à-dire les questions économiques qu'elle aurait dû baliser beaucoup plus tôt.
Ça veut dire, c'est intéressant, ça veut dire quoi? Que c'est plus un vote bras d'honneur, c'est vraiment un vote d'adhésion?
Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a toujours le vote de protestation, mais qu'elle est en train de construire, et c'est pour ça qu'elle se développe, un vote d'adhésion. Le néo-Front National sous Marine Le Pen a deux caractéristiques nouvelles par rapport au PR. La première caractéristique, c'est ce qu'on dit tous, la déghettoisation. La dédiabolisation du FN. C'est un parti qui était néo-nazi avant, franchement, avec le père, il était néo-nazi. Il publiait encore les chansons des Hitlerjugend.
Quand il avait sa maison d'édition, c'était il y a longtemps.
C'était il y a 20 ans. Hein. C'était pas il y a 200 ans. Et désormais, elle en a fait un parti qui est certes xénophobe, qui est dur, qui est islamophobe, mais qui respecte les codes républicains, qui ne dérape plus. Ces 5 dernières années, ou ces 10 dernières années, les seuls qui ont dérapé sont les membres du gouvernement Sarkozy. Donc ça, c'est un premier élément. Évidemment, des gens qui pouvaient vouloir voter pour le FN et qui ne le faisaient pas à cause de ce blocage-là, maintenant, n'ont plus de honte à donner leur vote à Marine Le Pen. Donc le FN est en train de devenir un parti populiste, plus classique, moins atypique au sein de l'espace européen. Le deuxième élément, c'est le changement radical sur les questions économiques et sociales. Jean-Marie Le Pen était un poujadiste. Il a commencé sa carrière chez Poujade. Mmh. C'était un néolibéral. Il était pour l'entreprise, le petit commerce et l'artisanat, contre l'État, contre la sécurité sociale, contre les impôts. La fille, c'est exactement l'inverse. Elle est pour un État fort, elle est pour la redistribution des richesses.
Mais ça, c'est pas un petit peu conjoncturel?
Non, c'est un changement vraiment radical. Pour la redistribution des richesses, des riches vers les classes populaires, blanches certes, mais populaires. Voilà. Donc on a un programme de gauche, en réalité, un programme de gauche très proche de celui qu'on entend chez Jean-Luc Mélenchon. Du coup, elle arrive avec un programme tout à fait qui est très difficile à combattre parce qu'il est très cohérent. C'est un programme de protection globale, protection culturelle pour garder l'identité nationale d'hier, contre l'immigration, contre l'islam, etc. Protection sociale, je veux une sécurité sociale forte pour les classes populaires, et protection économique, protectionnisme, sortie de l'euro, etc. Donc il y a maintenant un bloc. Elle le définit elle-même, national et social, qui dans le passé a su plaire très largement. Donc on a un vrai sujet maintenant pour endiguer la montée de ce néo-FN.
Alors un Front National, un discours en tout cas qui trouve écho chez les ouvriers, chez les petites gens. Et là, je m'adresse non pas aux candidats législatifs, mais au président de Terra Nova. Vous-même, les ouvriers, vous avez fait une petite croix là-dessus dans un de vos rapports. Vous avez définitivement abandonné cette tranche de population?
Non, c'est tout l'inverse. On a avivé un débat involontairement qui est celui de la gauche qui est pourquoi est-ce que le Parti communiste, qui était à 25% il y a 30 ans, était tombé avant Jean-Luc Mélenchon si bas? Pourquoi est-ce qu'il avait perdu le vote ouvrier et le vote des classes populaires en général, qui n'était pas un vote PS, qui était un vote essentiellement communiste? Et ce débat-là, en réalité, la gauche communiste ne l'avait jamais eu. Et à l'occasion du rapport qu'a sorti Terra Nova, tout cet impensé est ressorti. Nous, on n'a jamais raconté une telle connerie. On a dit tout l'inverse. Nous, on a dit que la gauche ne devait pas abandonner les classes populaires, mais qu'il fallait voir que les classes populaires de 2012 n'étaient pas celles de 1981. 1981, les classes populaires sont en emploi. C'est donc les ouvriers, essentiellement, et les employés de ce pays, au bas de la pyramide salariale. Ce qui veut dire que quand on veut aider les classes populaires, il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Et quand j'en discutais avec Pierre Laurent ou Olivier d'Artigol, le porte-parole du Parti communiste, quand il définit les classes populaires aujourd'hui, il dit toujours c'est le salariat. Ben non, c'est ça le problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un problème d'identification de ce qu'on sont devenus les classes populaires. Parce qu'en 2012, les classes populaires, ça n'est plus, non seulement plus uniquement, mais plus majoritairement le salariat. C'est le précariat. C'est une partie de la population.
Les services ont remplacé l'industrie ?
Non, non. Oui, alors, les services ont remplacé l'industrie, effectivement, dans ceux qui bossent, dans ceux qui sont salariés en CDI. On a moins d'ouvriers et plus d'employés, ça c'est vrai, et employés EES d'ailleurs, c'est surtout des femmes. Mais surtout, la plupart des classes populaires ne sont plus en emploi, ou en tout cas plus en emploi stable. On est passé de la société du plein emploi il y a 30 ans à la société du chômage de masse et à la société précaire. Aujourd'hui, l'essentiel des classes populaires, ce n'est pas des CDI, ni dans les emplois de service, ni dans les emplois industriels. C'est des gens qui sont au chômage, qui sont en CDD, en intérim, en travail fragmenté. C'est le quai d'Ouistreham, c'est la mère célibataire qui élève ses enfants seuls et qui a 4 heures de travail par jour comme technicienne de surface, 2 heures de 6h à 8h le matin avant que les bureaux ouvrent, et 2 heures le soir de 18 à 20h quand les bureaux sont fermés, mais qui est coincée toute la journée sur le lieu de travail parce qu'elle ne peut pas rentrer chez elle. C'est ça, c'est la réalité. C'est aussi les jeunes des banlieues, notamment, mettons les jeunes noirs et arabes, si on met des noms sur les choses. Voilà. Toute cette population-là, ce sont les classes populaires modernes, celles qui sont stigmatisées par la droite, que ce soit FN ou la droite radicalisée de Nicolas Sarkozy. On leur dit, vous êtes, en matière sociale, on leur dit, vous êtes des assistés, parce que vous avez bénéficié de la sécu ou des aides, parce que vous êtes précaires ou chômeurs, vous êtes des assistés. Ou bien on vous dit, vous êtes des jeunes fainéants, on vous dit, vous êtes la racaille de banlieue, on vous dit que vous êtes des étrangers sur votre propre territoire, alors que vous êtes français depuis 1, 2, 3 générations. Voilà. C'est cette classe populaire-là qui, aujourd'hui, sont les vrais oubliés, les invisibles de la société.
Alors, question quand même, à propos de cette classe populaire, est-ce que ça pose pas un problème majeur pour la gauche, c'est-à-dire que le vote vers l'extrême droite de ces classes populaires, ou vers aujourd'hui un front de gauche émergent, même si ça a été à des niveaux moins élevés que pronostiqué, est-ce que c'est pas un désaveu vis-à-vis de la gauche de gouvernement, la social-démocratie, qui n'est pas perçue, qui est perçue comme une alternance possible, mais pas comme une alternative? Est-ce qu'il n'y a pas un problème majeur et est-ce que le Hollande est apporte une réponse à ces gens-là?
Vous avez tout à fait raison. Simplement, de nouveau, attention à ce dont on parle. Les classes populaires de 2012. Classes populaires, pour l'INSEE, c'est les 50% les plus modestes de la société. C'est la définition, j'allais dire, statistique des classes populaires. Les 50% du bas. Dans ces 50% du bas, vous avez les deux tiers ne sont pas en emploi, sont déclassés. Ils sont précaires ou chômeurs. Ceux-là votent massivement à gauche. Massivement à gauche, forcément, c'est ce que je viens de vous dire. La droite les massacre. Vous êtes des assistés. Vous avez peu, mais c'est déjà beaucoup trop. Vous ne les méritez pas. Vous êtes des fainéants. Vous êtes un danger pour la société. Voilà. C'était tout le discours de droite. Donc forcément, ils ne vont pas voter à droite, heureusement. Et ils votent à gauche. Simplement, eux votent, c'est le vote des quartiers notamment, des quartiers populaires, ils votent par intermittence. Si vous ne leur dites rien, ils ne vont pas voter. D'ailleurs, ce coup-ci, ils ont moins voté, nettement moins voté qu'en 2007. Parce que le discours de la gauche a été assez modéré. Enfin, il n'a pas été beaucoup moins clair que celui de Ségolène Royal, par exemple, en 2007. Ensuite, il vous reste fort heureusement un tiers, disons, de classe populaire encore en emploi, donc qui est toujours en CDI, toujours inséré, et qui a peur de perdre son emploi, qui a peur du déclassement, et qui a raison d'avoir peur, parce qu'elle sait bien, ces Français-là savent bien que le prochain coup de hache dans l'économie, c'est pour eux, et c'est eux qui dégagent. Donc ils ont raison d'avoir peur. Simplement, la peur est mauvaise conseillère, et ceux-là ont la tentation de voter Front National. C'est ce bout-là qui vote FN.
Ils ont le sentiment que la social-démocratie, le Parti Socialiste, ne fera rien pour eux. On fera quasiment la même politique que la droite qui est au gouvernement.
Alors, ils ont raison.
Marine Le Pen prospère sur ce sentiment-là.
C'est vrai. Ils ont raison d'être déçus. Ils ont été déçus. Ils ont été déçus par la gauche au pouvoir dans les années 80 et 90. Et ils ont raison. Ils ont raison. La gauche les a déçus au sens où, en matière économique et sociale, elle n'a pas répondu à leurs attentes. Une partie était en emploi et n'y est plus. A basculé dans le chômage, et l'autre partie a vu ses salaires stagner au SMIC depuis 30 ans. Donc oui, ils ont raison, ils ont été déçus, et ils ont raison, ça correspond à une réalité. Alors, est-ce que dans l'avenir, est-ce que ce qui s'est passé pendant 20 ans doit se perpétuer à tout jamais? Je ne le pense pas. La clé pour la gauche, pour récupérer ces classes populaires-là, De nouveau, on parle, mettons, vous voulez que vous mettez des mots clairs sur les choses, donc c'est les ouvriers qui sont toujours en CDI aujourd'hui, plutôt blancs, plutôt mâles, plutôt plus âgés, ceux-là, cette portion-là qui a encore voté majoritairement FN, même si François Hollande a fait de très bons scores, et si Jean-Luc Mélenchon fait des scores corrects dans cette population-là, ceux-là et qui ont peur du déclassement, et c'est parce qu'ils ont peur qu'ils sont tentés par le vote FN, qui est un vote de protection justement face à cette peur, ceux-là, il faut leur répondre non pas sur les valeurs. Parce que là, la gauche perdra son âme si elle commence à dire « Oui, vous avez raison, il y a trop d'immigration en France. Oui, vous avez raison, l'islam ne fait pas partie de la République. Oui, vous avez raison, l'identité nationale est blanche. » Si on commence à raconter ça, on n'est plus de gauche, on est d'extrême droite. Donc, tout ce que disait le rapport de Terre Nouvelle était là-dessus. Ne vendons pas notre âme pour récupérer cet électorat. En revanche, il faut répondre à leurs attentes économiques et sociales. Parce que là, on les a déçus et il faut cesser de les décevoir. Donc, il faut, un, redonner de la prospérité économique à ce pays et, deux, faire en sorte que cette prospérité soit mieux partagée. Sur le partage, je pense que François Hollande donne plus que des gages. Pour le coup, on a une personnalité qui intimement croit à la nécessité du partage des richesses et à la justice sociale. Et sur la prospérité économique, c'est vrai que la droite, depuis 30 ans, n'a pas réussi à sortir la France de la crise, pas plus économique de long terme qu'on vit, pas plus que la droite d'ailleurs. Il faut que ça cesse. On a des pays qui réussissent.
Est-ce que François Hollande peut ou veut faire autre chose que de, s'il est élu président de la République, de gérer une forme de rigueur de gauche, de veiller à ce que les déficits ne s'accroissent pas, de garder la France dans les rails d'un schéma économique pouvant plaire aux agences de notation. C'est un petit peu toutes ces critiques qui ont été portées par Mélenchon, par exemple, qui a été entendu assez fort dans le cadre. Est-ce qu'il peut faire autre chose que
Déjà, sur la justice sociale, il a montré avec une mesure symbolique extrêmement forte, un taux d'impôt sur les sociétés à 75% pour les très très riches, hein, pour ceux qui gagnent.
C'est de l'ordre du symbole, ça.
C'est de l'ordre du symbole, c'est bien pas... entendu que c'est de l'ordre du symbole, mais le symbole est extrêmement important. Les inégalités s'accroissent dans la société française moins vite qu'aux États-Unis, mais s'accroissent très vite. Elles s'accroissent par le haut, parce que le 1%, voire le 0,1% des plus riches s'enrichit à toute allure, là où le reste de la population stagne, voire décroche quand il bascule dans le chômage. Pour lutter face à ça, on peut mettre toutes les règles. Il faut mettre des règles fiscales, il faut mettre des règles de droit. Mais toutes les règles n'y feront rien si les plus aisés des Français pensent qu'ils le valent bien. S'ils le valent bien, ils trouveront toujours un moyen de contourner la règle. Je peux vous dire, pour faire une tournée avec Terra Nova auprès des grandes entreprises françaises, qu'un certain nombre d'entre eux se mettent en situation d'échapper à l'impôt en allant se domicilier fiscalement, tout en continuant à travailler à Place de la Concorde, à se domicilier fiscalement, soit en Belgique, soit en Suisse, soit à Londres. Et que c'est très facile. Donc s'ils considèrent qu'ils le valent bien, et que c'est tout à fait normal de gagner 1 million, 2 millions, 10 millions d'euros tous les ans, eh bien, on ne pourra rien faire. Donc c'est aussi peut-être d'abord une bataille morale, c'est dans la tête des gens qu'il faut combattre, parce qu'il y a 10 ans, les mêmes gagnaient 5 à 10 fois moins, et ça leur semblait tout à fait normal de gagner 5 à 10 fois moins.
Est dans l'ordre du symbole, on est dans l'entre-deux-tours également.
Mais je veux revenir aussi à votre question, sur la question sur est-ce que la gauche et François Hollande vont faire autre chose que la rigueur. Oui, il dit depuis le début que la rigueur budgétaire est nécessaire. On pourrait dire on est au bord du gouffre, la France est surendettée, elle est au bord de la cessation de paiement. Donc oui, il faut faire attention, parce que sinon... sinon on va tomber dans le trou. Je cite juste un exemple parce que
en même temps il y a beaucoup de richesses dans le pays, hein.
Oui, il y a beaucoup de richesses dans le pays, bien sûr. La France se traîne, hein, économiquement, mais oui, il y a beaucoup de richesses dans le pays, c'est ce que propose François Hollande. Prenez 2010, la dette, la dépense publique de l'État français, de l'État, c'était 300 milliards, les recettes 150 milliards. Recettes 150, dépenses le double, 300. Appliquez ça à votre compte en banque personnel. Vous gagnez, disons, 1500 euros par mois. Vous en dépensez 3000 tous les mois. Question, au bout de combien de mois, votre banquier décroche le téléphone et vous dit, faut arrêter les conneries. Pour l'État français, ça a pris 38 ans, 1974-2012. Moins qu'on puisse dire, c'est que les banquiers qui finançaient l'État français ont été particulièrement laxistes. Donc oui, il faut aujourd'hui, parce qu'on a été laxistes pendant 38 ans, il faut revenir à un minimum de rigueur. Mais, et c'est là où Hollande se différencie de la droite, c'est que la social-démocratie se différencie de la droite, c'est qu'elle dit, attention, un plan de rigueur exclusive va plonger le pays dans la dépression, comme ce qui est le cas en Grèce. Donc il faut, à côté de du nécessaire assainissement des finances publiques, il faut un plan de croissance. Et impérativement, parce que sinon, on ira dans le mur. Et c'est bien ce qui manque à la France depuis 30 ans. Alors là, on a commencé à regarder autour de nous les pays qui marchent. Vous prenez les pays nordiques, par exemple, qui sont les pays les plus riches, parmi les pays les plus riches du monde, qui caracolent aujourd'hui. La Suède fait 5% de croissance cette année, et ça fait des lustres que ça dure. Qu'est-ce qu'ils nous enseignent ? Eh bien, ils nous enseignent que pour faire repartir la richesse du pays, il faut investir. Il faut investir dans l'avenir, il faut restaurer notre capital économique, investir, faire des investissements industriels, investir dans le capital humain, c'est-à-dire dans l'éducation du pays, investir dans la recherche. Toutes choses que nous ne faisons pas. Ce qui s'est passé ces 30 dernières années et qui explique nos difficultés économiques, c'est que nous avons cessé d'investir dans notre avenir. Deux économistes pourtant libéraux, Jacques Delplat et Charles Viplose, chiffraient pour la commission Juppé-Rocard, auquel j'ai participé, à 400 milliards d'euros le déficit cumulé d'investissement de la France depuis qu'on est en crise, quoi, depuis 25 ans. 400 milliards d'euros de retard. C'est ce qui explique que nous ne produisons plus aucun produit et services innovants de classe mondiale. Hein, les iPhones, c'est des produits... c'est le téléphone le plus cher du marché. Et pourtant, c'est celui qui se vend le mieux. Pourquoi ? C'est pas des problèmes de coûts. C'est un problème d'innovation, c'est parce que c'est un produit innovant. On n'a plus fait un seul produit innovant depuis les années 70. On savait les faire à l'époque. On a fait le TGV, on a fait Airbus, on a fait les fusées, on a fait Ariane. Dans les services, on a inventé les grandes surfaces. Carrefour est numéro 1 ou 2 mondial des grandes surfaces, mais c'était une invention des années 50. Voilà. On n'a plus rien innové, on n'a plus rien fait en matière d'innovation depuis 30 ans, et c'est ce qui nous coule. Et donc, il faut innover. D'où les idées de relance d'investissement que porte Hollande et que porte aussi Terra Nova, la banque publique d'investissement par exemple, un taux d'impôt sur les sociétés baissé pour les bénéfices réinvestis et à l'inverse accentué pour les bénéfices qui partent en dividendes. Voilà des propositions cherche à renforcer l'investissement.
Il y avait une proposition qui avait fait débattre aussi, alors vous allez dire, parce qu'on vous a mal compris peut-être, mais au moment où les gens se mobilisaient pour défendre leur droit à la retraite, et ils étaient très nombreux dans cette région, vous disiez vouloir faire payer les retraites par les retraités. François Hollande ne revient pas fondamentalement sur la réforme qui a été faite. Est-ce que justement, ces gens de peu, les classes populaires ne vont pas avoir le sentiment qu'on demande toujours quand même aux mêmes de faire les efforts dans cet effort national et d'équilibre des budgets, etc. D'accord. Ok, Hollande veut rééquilibrer les choses, mais ce rééquilibrage, est-ce qu'il n'est pas cosmétique, en fait ? C'est ça la question qui est posée aussi politique, peut-être, dans ce scrutin.
Deux choses, Hollande et le rapport de Terra Nova que vous citez, où là on a très bien été compris, où j'assume tout à fait ce que nous avons dit. Sur François Hollande, je suis sûr qu'il est sincère sur la volonté de revenir sur la réforme des retraites. Il a annoncé que ce serait une des mesures qui seront prises dans les 100 premiers jours. Donc on verra vite s'il tient ses promesses. Pour moi, c'est fondamental, parce que la réforme des retraites est nécessaire, mais celle qui a été menée par Nicolas Sarkozy est injuste. Il n'y a pas une réforme possible, il y a des réformes, justes ou moins justes. La réforme était nécessaire. Il y a 20 milliards de trous à échéance de 2020 dans le système des retraites. Donc si vous ne faites rien, le système est en faillite. Il faut bien faire quelque chose. Donc il faut faire un effort. On sait pourquoi. Les Français vivent plus longtemps, donc il faut financer des retraites plus longues. Et de l'autre côté, il y a un peu moins d'actifs, notamment à cause du chômage. Et donc on a un déséquilibre financier. Il faut bien faire quelque chose. Si on laisse le système sans rien faire, il est en faillite. Bon, 20 milliards d'euros, ce n'est pas une paille. Hein. Alors après, c'est... Donc il faut faire des efforts, il faut trouver 20 milliards pour boucler. Donc ce sont des efforts qu'on va demander aux Français. Des efforts, il faudra que quelqu'un paye d'une manière ou d'une autre. Donc c'est désagréable, mais il n'y a pas d'autre choix. Les Français étaient d'accord. 80% des Français, lors de la négociation de la réforme, étaient conscients qu'il fallait une réforme, c'est-à-dire faire des efforts. La question, donc, c'est qui paye ? Qui paye ? Le gouvernement a choisi, comme élément central, de passer de 60 à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire en réalité l'âge minimum de départ à la retraite. Comme vous savez qu'il faut aussi, pour avoir une retraite, avoir cotisé un nombre d'annuités suffisantes, en gros 41 annuités aujourd'hui, eh bien, ceux qui vont payer, c'est ceux qui auraient pu partir à 60 ans et qui vont devoir attendre 62. Comme il faut 41 annuités de cotisation, c'est ceux qui ont 60 moins 41, ça fait 19, donc c'est ceux qui sont partis à 18 ans, ceux qui ont commencé à bosser à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans. Ceux-là auraient pu partir à 60 ou 61 ans, sont obligés d'attendre 62. C'est eux qui payent l'intégralité des 20 milliards d'euros d'efforts pour boucler les retraites. Moi, qui ai commencé à bosser à 25 ans, plus 41 annuités de cotisation, ça me mène à 66 ans. Je partais à la retraite avant la réforme à 66 ans. Je partirai à la retraite après la réforme à 66 ans. Je paye 0 euro des 20 milliards d'efforts demandé par la réforme. C'est injuste. C'est injuste. Et donc ce que propose la gauche, c'est de revenir sur cette injustice, de remettre les choses à plat, de permettre à ceux qui ont travaillé longtemps de partir à 60 ans comme les autres. Il n'y a aucune raison que parce que je n'ai pas fait d'études, je bosse plus longtemps que ceux qui ont fait des études. C'est quand même dément, parce que c'est souvent des métiers plus difficiles que vous faites quand vous n'avez pas fait d'études que quand vous avez fait des études, en général. Donc il n'y a aucune raison qu'en plus, la double peine, vous soyez sanctionné par le fait que vous devrez travailler plus longtemps. Voilà. Donc il faut revenir sur la réforme et faire une réforme juste. C'est la mise à plat que veut faire
avec
François Hollande.
Avec une concession aux 11%, un peu plus de 11% à Mélenchon. Parce que j'imagine que si vous êtes d'accord pour revenir sur cette réforme du gouvernement, Mélenchon également,
oui,
les moyens et la méthode n'est pas la même.
Bah après, le fait de revenir sur la réforme, et je ne sais pas, ce n'est pas une concession à Mélenchon, c'est un partage de valeurs avec Jean-Luc Mélenchon. Pense la même chose sur la réforme des retraites. Après, sur la proposition de Terra Nova, quand on dit il faut payer. Dans la réforme des retraites à ce stade, et ça c'est vrai que ce que je vais dire là n'est partagé par personne, ni par Hollande, ni par la droite. Mais moi il me semble qu'il y a une autre injustice. C'est que dans la réforme, on peut faire tout varier, sauf le niveau des retraites. Tout varier, c'est-à-dire faire payer les actifs plus cher, avec des taux de cotisation plus élevés, donc on fait baisser le pouvoir d'achat des actifs, ou bien on les fait travailler plus longtemps. En revanche, le niveau des retraites des retraités actuels ne fait pas partie des variables d'ajustement pour trouver les 20 milliards d'euros. Dans les autres pays, quand on réfléchit, parce que partout en Europe et en Occident, évidemment, l'espérance de vie augmente et les systèmes de retraite se retrouvent en déficit, partout on réfléchit aussi avec une autre variable d'ajustement qui est le niveau des retraites. En Suède, ils ont baissé le niveau des retraites, par exemple, avec la crise. Bon. Mmh. Nous, non. Alors, c'est bien pour les retraités actuels. C'est la double peine ou la triple peine pour les actifs d'aujourd'hui, qui voient leur pouvoir d'achat diminuer parce qu'on leur demande des cotisations supérieures, qui doivent travailler plus longtemps et qui auront en plus des retraites plus faibles. C'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, le niveau de vie des retraités d'aujourd'hui, pas ceux de demain qui va baisser, hein, mais des niveaux de vie, le niveau de vie des retraités d'aujourd'hui est plus élevé. Du fait de la qualité de notre système de retraite, est plus élevé que le niveau de vie des actifs. Donc nous, on a dit, attendez, quand on regarde tout ça, il y a peut-être aussi à faire contribuer les retraités qui bénéficient d'avantages fiscaux liés au souvenir qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, les pauvres dans la société les plus modestes, c'était les retraités, parce que le système de retraite n'était pas encore monté en puissance. Il est monté en puissance. Aujourd'hui, ils vont très bien, tant mieux pour eux. Il ne s'agit pas de les paupériser, il s'agit juste de dire que dans l'effort, il faut partager l'effort entre les actifs et les retraités. Et il y a un élément qu'on a proposé, qui me paraît légitime, c'est celui de la CSG. Les retraités payent moins de CSG que les actifs. Quand vous êtes ouvrier chez Renault au SMIC, vous payez 7,5% de CSG. Quand vous êtes Liliane Bettencourt, vous payez 6,6% retraité, 6,6% de CSG. Est-ce que c'est normal? La réponse est non. Donc on proposait d'augmenter, d'aligner la CSG des retraités aisés, des retraités riches, du tiers des retraités les mieux payés, c'est les seuls, ceux qui payent 6,6%, les autres payent moins, ils payent 3,8 ou 0, voilà, de l'aligner sur celle des actifs. Donc on disait aux retraités les plus aisés, vous allez payer la même CSG que les ouvriers. Est-ce injuste?
En même temps, mobiliser un corps électoral facilement mobilisable, enfin l'impacter comme
ça. Ah bah ça, en termes de politique, c'est très compliqué, je suis d'accord.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi, avec Olivier Ferrand, aujourd'hui candidat à la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône et également patron de Terra Nova. Michel Guéraud.
Revenons sur l'analyse du scrutin Front National, on l'a dit très haut, 18% en France, alors 24% en région PACA, 27% même pas très loin d'ici dans le Vaucluse, département qui a voté le plus pour Marine Le Pen. Et il se trouve que cette région aussi, celle qui avait le plus publicité, enfin une de celles qui avait le plus publicité Nicolas Sarkozy en 2007, qu'il avait en 2007 fait une campagne sécuritaire, une campagne sur avec le vocabulaire et les thématiques de l'extrême droite, ça avait marché. En 2012, ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça déraille? Pourquoi ça marche pas la seconde fois? Et aussi, est-ce que vous avez le sentiment, vous décriviez tout à l'heure finalement le virage en termes d'image de Marine Le Pen et du Front National, qu'une digue pourrait rompre dans la séparation qui existe entre la droite dite républicaine et une extrême droite dans des mouvements de récomposition qui pourraient avoir lieu dans les semaines et les mois qui arrivent, dans la séquence qui va suivre?
Non seulement je pense, mais je l'ai écrit il y a déjà assez longtemps. Je pense qu'on assiste depuis au moins 5 ans, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, à une convergence entre l'UMP et le FN, et que nous allons finir avec une alliance peut-être pas tout de suite, mais pour le prochain mandat, UMP-FN. Qu'est-ce qui s'est passé dans la période? C'est extrêmement simple. Le sarkozysme a déplacé le centre de gravité de la droite, qui était au centre droit en France, gaullisme social, UDF, chrétienne, démocrate, vers une droite beaucoup plus radicalisée, et à certains égards, aux portes de l'extrême droite, notamment sur les questions de valeurs, l'identité nationale, l'immigration, etc., aux portes de l'extrême droite. De l'autre côté, on a assisté à une déghettoisation, une dédiabolisation du FN, qui devient fréquentable, et avec une volonté de Marine Le Pen de gouverner. Elle le dit, à qui veut l'entendre, donnez-nous les manettes. Donc on assiste à cette convergence UMP-FN qu'on a vue dans nombreux pays européens, sous l'effet de la crise, une radicalisation de la droite, et chaque fois, dans tous les pays européens où ça s'est passé, chaque fois que la droite a été mise en demeure de choisir entre perdre le pouvoir et faire alliance avec l'extrême droite pour gouverner, chaque fois elle a fait alliance. Il n'y a pas d'exception en Europe. Italie, Pays-Bas, Autriche, Danemark, partout ça s'est passé.
Alors, c'est ce qui va se passer à la région, ça nous amène à la séquence.
C'est ce qui va se passer en France.
PACA, l'extrême droite, et la droite en PACA, la droite populaire par exemple, qui est née Thierry Mariani, Vaucluse, Marie Joissin, j'en oubliais beaucoup parce que la plupart des députés de la droite populaire sont issus de la région PACA. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une spécificité de la droite locale sur ce terrain-là?
Enfin, elle est en avance.
Oui.
Elle est en avance.
Pourquoi?
Parce que justement, elle est au contact. Elle a conscience, cette droite PACA plus que d'autres, de la menace que représente le FN pour sa survie politique. Et donc elle est en avance sur les autres dans sa volonté de faire alliance. On n'en est pas tout à fait là. Bon, c'est arrivé dans le passé à des moments critiques, au niveau régional par exemple.
Oui, on rappelle tous aux auditeurs Jean-Claude Gaudin, président du conseil régional, grâce aux voix du Front National.
Exactement. Donc quand il s'est agi de garder le pouvoir, elle n'a pas hésité à le faire. Et ça va se reproduire. Je vous fiche mon billet que ça va se reproduire. Alors, si on fait les projections actuelles, je ne sais pas si elles seront tenues, mais des sondages actuels, donc une résultat de second tour autour de 55% pour François Hollande, historique, et un FN très haut, si la droite ne fait rien, ben elle n'aura pas 50 députés en France. Et dans la région, vous aurez des triangulaires partout, et elle se fera battre partout. Question, est-ce qu'elle va accepter de ne conserver que le 7e arrondissement de Paris comme circonscription, ou est-ce qu'il va y avoir des alliances sauvages, en réalité des désistements réciproques sauvages?
Alors le temps avance, le sommaire est chargé, l'actualité est lourde, la séquence électorale est dense. La droite, l'UMP, va dire triangulaire, vous venez prononcer le mot. Une fois de plus, l'extrême droite, le Front National, va faire le jeu du Parti Socialiste, peut faire votre jeu à vous, par exemple sur la circonscription de Salon de Provence. Vous pouvez peut-être être élu grâce à une triangulaire ou un duel face au Front National. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu comme ça de, finalement, est-ce que le Parti Socialiste, ça ne l'arrange pas? Ça arrange pas ses affaires.
Alors, on peut quand même pas dire. Je sais bien qu'on a accusé Mitterrand pendant des lustres d'avoir fomenté.
C'est pas fondé quand même.
Le droit de vote promis.
Écoutez, j'étais pas né à l'époque. Moi, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Front National actuel, il doit rien à la gauche et tout à Nicolas Sarkozy. Hein. Donc, faut quand même remettre les responsabilités là où elles sont. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je ne parle que pour moi, mais moi, j'ai un concurrent à droite qui est le candidat UMP et j'ai un ennemi à l'extrême droite qui est le FN. Jamais je combattrai le FN de toutes mes forces, et vous parlez de triangulaire, s'il y a un duel, s'il doit y avoir un duel UMP-FN, je ferai campagne. C'est pas que j'appellerai à voter, je ferai campagne pour le candidat UMP s'il est propre. Pour lutter contre le FN, qui est la gangrène de la démocratie française.
Olivier Ferrand, concrètement, aujourd'hui, on est entre les deux tours, François Hollande appelle à entendre, à comprendre en tout cas les électeurs du Front National, c'est faire en quelque sorte des concessions. Vous-même, vous allez rester sur, par exemple, une mesure symbolique, c'est le droit de vote des étrangers. Vous allez faire campagne également là-dessus, au risque d'énerver et de radicaliser encore plus ceux qui étaient hésitants.
J'ai fait des réunions publiques à Marseille
avec Patrick. C'était avant le premier tour.
Oui, avec Patrick Mennucci pour défendre le droit de vote des étrangers. Vous voyez, j'ai pas de problème. Moi, j'ai une conception. Je suis pas un véritable homme politique. À côté, je dirige une association et pour moi, les valeurs sont plus importantes que tout. Je ne galvauderai pas, je ne sacrifierai pas mes valeurs pour...
Certains peuvent appeler ça du pragmatisme, non?
C'est tout l'inverse, enfin, je ne sais pas. Peut-être, mais pas moi. Moi, je ne le ferai pas. Donc, par contre, il faut entendre ce que disent les électeurs du Front National. Ils ne sont quand même pas tous fascistes. Ils ne sont pas tous racistes, quand même. Il y a trois grandes causes au vote FN. Le premier est économique. C'est la peur ou la réalité du déclassement. Quand vous êtes sur les temps de Berre, puisque ça fait une partie des temps de Berre fait partie de la circonscription où je sévis, Berre-l'Étang et Rognac en l'occurrence, avec des scores stratosphériques du FN, on voit de désindustrialisation. Vous avez une partie des salariés de Lyon-Delbazel qui sont menacés. Il y a 5000. Quand vous prenez l'ensemble des salariés de Lyon-Delbazel plus leurs sous-traitants, il y a 5000 emplois qui sont en jeu. Vous imaginez le stress? Donc là, il faut répondre par la réindustrialisation, par l'investissement à cette peur économique. Après, il y a les questions liées à la peur de l'immigration et aux difficultés de cohésion sociale. C'est là où il ne faut pas perdre ses valeurs.
Au niveau de la sécurité, qui est aussi un thème très important, qu'est-ce que vous allez proposer? À quoi vous allez renoncer?
Alors, en termes de sécurité, c'est tout à fait différent. Pour moi, la sécurité, c'est un droit républicain pour tout le monde.
Enfin, jusqu'à présent, la crédibilité du PS était pas
fameuse. Était faible, tout à fait, elle était faible. Mais pour moi, la sécurité, ça n'est pas une valeur de droite, c'est une valeur républicaine. Tout le monde a droit à la sécurité. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes fait agresser une fois dans votre vie, vous savez ce que ça veut dire. Donc alors là, je n'ai absolument aucun fléchissement, aucune hésitation sur le fait que la sécurité est une priorité politique de droite comme de gauche. Si elle devait être localisée au sein du paysage politique, elle devrait être de gauche, parce que ceux qui souffrent le plus de l'insécurité, ce sont les classes moyennes et populaires de ce pays dans les quartiers difficiles.
Ça passe, Olivier Ferrand, par des lois, des promesses de lois, en tout cas, vous êtes candidat aux législatives, par des promesses de lois plus répressives?
Je crois que c'est pas... Le Sarkozy a fait fausse route en multipliant les lois répressives et en supprimant à l'inverse les moyens humains pour assurer la sécurité. C'est pas la peine de renforcer les lois de manière hystérique. Il faut que les moyens faits pour respecter cette loi, qui doit être juste, soient suffisants. Nicolas Sarkozy a supprimé un certain nombre, il a supprimé 15 000 postes de fonctionnaires de police et de gendarmerie. Et en plus, il les localise dans les quartiers où il ne se passe rien, c'est-à-dire dans les quartiers aisés ou qui sont tranquilles. Il faut faire tout l'inverse, il faut réembaucher des gendarmes et des policiers, et les mettre là où il y a des difficultés, c'est-à-dire dans les quartiers populaires notamment.
Alors, je ne lis pas toutes les notes de Terra Nova, pardon. Les caméras de vidéosurveillance, de vidéoprotection, vous en pensez quoi? Parce que dans la région, on ne trouve aucun maire de gauche ou de droite qui ose dire que ça ne marche pas et qui ose dire qu'il faut, c'est idiot d'investir là-dedans.
On a écrit là-dessus avec Robert Badinter dans un rapport récent. La réalité, c'est deux choses. Un, ça coûte atrocement cher. C'est trois choses. Un, ça coûte atrocement cher. Donc, il faut quand même faire attention. C'est 20 000 euros la caméra, et puis il faut quand même quelqu'un derrière pour les regarder, les caméras. Bon. Deux, c'est souvent utilisé pour remplacer des moyens humains. Donc, on supprime des policiers, on met des caméras. C'est complètement idiot. Complètement idiot. Ça peut venir en plus.
Vous l'avez expliqué à Patrick Minucci, par exemple.
Complètement. Vous... Troisièmement, en revanche, y a des cas de figure où ça marche bien. Là, les Anglais s'y sont mis bien avant nous. Donc, quand vous regardez l'Angleterre, dans les lieux publics, ça marche pas très bien. Et en revanche, dans les lieux fermés, ça marche très bien. Bon, donc moi, ma politique, alors là, elle est pragmatique, c'est de dire, mettons des caméras, même si ça coûte cher, là où ça va bien. Après, je comprends bien, Patrick, et tous les maires de gauche du département, ils disent, ça rassure les gens. C'est vrai que ça les rassure. Simplement, ça les rassurera encore plus d'avoir des policiers et des gendarmes près de chez eux, qui soient accessibles, qui soient présents quand il y a une catastrophe, et qui puissent agir.
Est-ce que la gauche ne se montre pas faible, justement, quand, pour répondre aux besoins exprimés par les électeurs, ou censément exprimés de sécurité, elle reprend comme ça des politiques un peu d'esbrouf ou de pour donner une visibilité...
De nouveau, soyons pragmatiques. Il y a des cas de figure où ça marche. Mettons des caméras là où ça marche, puisque ça assure la sécurité des gens. Pour le reste, rien ne remplacera la police et la gendarmerie, si possible, de proximité, parce que ça ne sert à rien d'avoir le RAID et le GIGN qui débarquent une fois tous les trois mois pour faire des opérations coup de poing. Il faut un maillage de sécurité de proximité. Mais là, il faut des hommes et des femmes avec des képis.
Michel.
Alors sans faire l'émission sur toutes les thématiques du Front National, mais il se trouve qu'il pèse lourd effectivement dans le scrutin, donc on en parle. Il y a aussi ce sentiment du tous pourri, de manque de probité en politique, des pratiques, enfin les pratiques, le cumul des mandats. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi majeur de rénovation des pratiques? Alors vous, on vous accuse d'être parachuté, y compris dans votre propre camp. C'est vrai, ça? Alors, vous vouliez vraiment à tout prix venir ici? Les Pyrénées orientales, vous en avez déjà marre?
Je suis Marseillais, j'ai passé la moitié de ma vie à Velo, où j'habite, où j'ai ma maison familiale, où mes parents habitent. Donc oui, ça fait longtemps que je voulais revenir dans le département pour y faire de la politique.
C'était une erreur, les Pyrénées-Orientales là,
Non, c'était pas une erreur. Là, j'y étais vraiment parachuté. Mmh. J'y avais travaillé dans les années 90, mais j'y étais vraiment parachuté. Alors que là, je retourne chez moi. C'est toute la différence. Alors ensuite, donc, en termes humains, je suis certainement pas parachuté. Chuter chez moi, c'est un peu compliqué. J'ai quand même passé 20 ans de ma vie ici et je connais bien tout le monde. En revanche, je suis effectivement un parachuté politique, au sens où je ne fais pas partie du système politique local, et il semblerait que ce soit un avantage égard à la situation contemporaine. Et donc je le revendique effectivement de ne faire pas partie de ce système. Et vous avez raison, un autre élément qui explique, qui nourrit le vote du Front National, c'est le sentiment que les élus se comportent mal. En gros, les élus, on leur demande d'être efficaces. Quand ils ne le sont pas, quand ils n'arrivent pas à vous sortir de la merde, quand ça fait 30 ans que la France se trême, au moins, on leur demande de bien se comporter. Et s'ils ne se comportent pas bien, ça devient intolérable. Et on a ce problème en France, singulièrement sur le département. Il y a deux choses qu'il faut combattre. Le premier, c'est la corruption. Là, c'est totalement inadmissible. C'est un travail de juge. Je n'accuse personne. Je dis simplement, il faut que la justice...
Justement, on va peut-être arrêter de parler par litote. Vous arrivez dans une fédération, celle des Bouches-du-Rhône, qui est...
Pas par litote, par omission.
Oui, qui est pointé du doigt dans toute la France, avec un président du Conseil Général, Jean-Noël Guérini, dont on parle, qui est mis en examen pour association de malfaiteurs, ce qui est relativement grave et unique, avec des élus qui ont tous des casseroles, ou quasiment pour la plupart des casseroles, notamment dans le coin où vous vous présentez, dans la 8e circonscription. Les maires alentours ont tous au moins eu affaire au moins une fois à un juge. Voilà, vous arrivez en disant opération main propre, on change les hommes et pas seulement les méthodes.
Moi, je dis, il y a deux choses qu'il faut bien séparer deux choses. La première, c'est ou même trois. La première, c'est la corruption. La corruption, c'est l'affaire du juge. Moi, mon souci, c'est que le juge passe vite. Le juge
vous la condamnez quand même cette corruption.
Bah, évidemment, je la condamne.
Bah, c'est bien de le dire.
Est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que Jean-Noël Guérini devrait, compte tenu de sa mise en examen, de la gravité des faits qui sont reprochés, même s'il n'a pas été encore jugé, devrait céder sa place et ne plus être président du Conseil général des Bouches-du-Rhône?
Je pense qu'il a énormément de mal à pouvoir gouverner de manière sereine ce département. Ensuite, je ne suis pas juge, je ne connais pas.
Vous ne répondez pas à la question.
Je ne connais pas le contenu.
Si, il y a des gens, il y a Marie-Arlette Carlotti, par exemple, qui est soutien de Hollande dans les Bouches-du-Rhône, Jean-Noël, il est innocent peut-être, la justice le dira peut-être un jour, mais politiquement, on ne peut plus assumer ça, ce n'est pas possible, il faut qu'il laisse sa... Voilà. Est-ce que vous êtes sur cette position ou pas?
Oui, je pense qu'il ne peut pas sereinement gouverner le département aujourd'hui.
Non, mais on ne parle pas de sérénité avec le chef d'accusation. Association de malfaiteurs, vous ne vous dites pas, là, stop, on arrête. Rien qu'avec ça.
Moi, mon souci... C'est pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que la justice met trop de temps à trancher. Ma ligne, elle est extrêmement claire. La corruption, c'est la gangrène de la démocratie. La gangrène, c'est-à-dire quand vos élus sont corrompus, c'est la fin de tout. C'est la fin de tout. Donc, les juges doivent passer extrêmement vite. Ils se trompent parfois. Il y a des mises en examen qui terminent avec des élus blanchis quand même. Il ne faut pas toujours tous les accuser. Ce n'est pas parce qu'ils sont mis en examen, il y a des irrégularités administratives qui peuvent arriver, qui sont corrompus. Mais il faut donc qu'elles passent très vite parce que la période intermédiaire est extrêmement difficile à gérer pour tout le monde. Donc il faut que la justice passe extrêmement vite, qu'elle soit impitoyable, qu'on durcisse. Alors là, pour le coup, qu'on durcisse les peines sur les élus corrompus, car un élu qui s'est mis de l'argent dans les poches ne doit plus jamais exercer un mandat public. Jamais. C'est-à-dire quand un chef d'entreprise tombe pour des cas du même genre, il ne peut plus monter une entreprise de toute sa vie. Bah, c'est pareil en politique. Fini. Après, il y a les comportements éthiques qui relèvent pas du droit pénal, mais qui relèvent de l'immoralité. Bon, ceux-là doivent être combattus. Alors là, ça ne relève pas du juge, ça relève du personnel politique. Et là, il faut effectivement changer les méthodes, et ça passe par un changement d'homme, parce qu'effectivement, vous ne ferez pas boire à un âne qui n'a pas soif.
Donc vous êtes pour un changement du personnel dans les Bouches-du-Rhône?
Je suis pour un renouvellement du personnel. Il s'agit pas, je vous suis pas sur le fait de dire qu'ils sont tous corrompus. Ça, c'est ce que dit le FN. Ça n'est pas vrai. Je côtoie tous les jours des élus qui sont absolument... Enfin, je ne sais pas s'ils sont...
Je ne dis pas qu'ils sont tous corrompus. J'ai dit qu'ils ont eu, pour la plupart... au moins passage chez le juge. Ce qui est quand même suffisant pour...
Écoutez, là, il faut faire... Je vais vous prendre un exemple concret. Michel Thonon, maire de Salon, a été mis en examen. Il était dissident contre moi. Il m'a causé des difficultés, donc je vous en parle avec assez de franchise et de loyauté. J'avais regardé sa mise en examen, franchement. Franchement, c'était du harcèlement de la part du demandeur, de la personne qui l'avait conduit devant le juge. Et il est tout à fait légitime qu'il ait gardé ses mandats qu'il ait été blanchi par le juge. Parce que c'était un vrai harcèlement. Si la loi était bien faite, il n'aurait jamais été mis en examen pour cette affaire-là. Voilà. Donc, il faut pouvoir quand même faire attention. Il y a quand même aussi une présomption d'innocence.
Alors, on parle du juge, du chêne. Il y a des écoutes téléphoniques. Et puis, c'est dans la presse, partout. Et Rémi Bargès, directeur de cabinet de Jean-Noël Guérini qui parle avec vous au téléphone et qui vous dit Jean-Noël Guérini est hostile à ton arrivée dans le 13, il a expliqué à ton oncle que c'était sa mort politique, que tu allais lui prendre la mairie, enfin tout voilà, donc là tu es tombé chez les fous, il faut du sang neuf dans le département, j'aimerais t'aider publiquement mais si je le fais je me fais couper en morceaux. C'est votre arrivée comme ça, elle suscite des réactions aussi vives. Alors, Jean-Noël Guérini hostile à votre arrivée dans le département?
Il faut lui demander.
D'abord, vous avez des conversations assez libres avec M. Bargès.
Oui. Vous avez vu
Le désécoute dans la presse, ça vous choque, ça? C'est normal, c'est le jeu démocratique, c'est le juge s'appuie sur la presse pour avancer, la presse...
Il y a quand même un problème de méthode, là, non?
Oui, mais écoutez, vu la situation, je ne vais pas reprocher aux journalistes et aux juges, parce que c'est quand même le juge ou les gendarmes qui lâchent évidemment les PV d'audition, je ne vais pas leur reprocher de faire ça, même si je conçois... Alors là, pour le coup, je conçois tout à fait que Jean-Noël Guérini dise qu'il y a quand même un problème de fonctionnement du système médiatico-judiciaire du pays. C'est vrai que c'est anormal. Mais voilà, donc cette anormalité, à mon avis, elle est due au fait que la justice est trop lente. Elle est trop lente parce qu'elle n'a pas assez de moyens. Il n'y a qu'un seul juge. Elle peut faire des actes qu'une fois par semaine ou l'équivalent. Donc, il n'y a pas assez de moyens mis dans la justice de ce pays pour pouvoir agir sereinement. Donc, après, on assiste à...
Alors, dans le Ravi, excellent journal, vous déclariez en janvier, j'incarne le renouveau dans un département qui en a bien besoin. Il y a un groupe qui s'appelle de socialistes Renouveau 13 qui font la guerre à Jean-Noël Guérini et qui disent bravo la candidature de Ferrand, c'est la candidature qu'il faut pour amener du sang neuf. Ça, c'est ce genre de soutien, vous dites merci, oui, c'est bien ça, oui, c'est, j'incarne le renouveau, il en faut et j'en suis.
Oui, enfin, je reste modeste. Hein. Je... Ne me faites pas porter un costume beaucoup trop large pour moi.
D'autres le font.
Mais d'autres le font,
oui. Taille.
Donc, par contre, oui, je souhaite contribuer au renouvellement des pratiques politiques de ce département. Je peux...
Ce qui veut dire, Olivier Ferrand, qu'au-delà des législatives, il y a une vie pour vous ici, dans les Bouches-du-Rhône. Et pas seulement pour passer les week-ends.
Et c'est ce que je souhaite, effectivement. Vous savez, quand je n'étais pas candidat aux législatives ce coup-ci, j'étais sur Terra Nova à la campagne nationale. Et c'est un hasard, le gel des circonscriptions législatives dans les Bouches-du-Rhône pour cause d'affaires, qui a abouti au fait que c'est la rue de Solferino et pas... la Fédération des Bouches-du-Rhône qui a procédé aux investitures. Et on est venu me chercher, en l'occurrence Martine Aubry, Vincent Payon, Manuel Valls, qui m'ont tous dit, t'es Olivier, toi qui depuis 10 ans nous casse les pieds à vouloir essayer de revenir t'implanter politiquement à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, bah, c'est peut-être l'occasion que tu fasses quelque chose d'utile.
Vous n'avez pas eu l'impression d'être un petit peu sacrifié, non?
Non, parce que je sais lire les résultats, les courbes électorales. Je savais que cette circonscription était, la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, donc étant de Berges jusqu'à Salon, était extraordinairement difficile. Elle est à droite depuis 1965. Non, donc depuis
Michel Thonon, quand même, maire socialiste.
Depuis 60 ans. Et elle faisait, ouais. Elle faisait 62-38. Elle était à 62% à droite en 2007, aux législatives. 62%, ça la met dans les 150 circonscriptions les plus à droite de France, sur 577. Donc, quand on me l'a proposé, j'y suis allé parce que je voulais revenir sur les Bouches-du-Rhône, parce que j'ai une légitimité, parce que c'est là où j'ai habité, parce que mes parents y habitent, parce qu'effectivement, mon arrière-grand-père était maire de Velo, la place du village, la place François IV, porte le nom de mon arrière-grand-père. Donc, ça donne quelques légitimités humaines à se balader sur le territoire. Mais je savais que ce serait très difficile. Et donc que j'avais quand même plus de chances de la perdre que de la gagner. Voilà. Donc si j'ai pris cette décision, ça n'est pas en me disant chic, je vais être député et donc ministre dans la foulée. C'est parce que je voulais, ce qui ne gâcherait rien par ailleurs, mais je vous rassure, c'est l'objectif. Mais c'est d'abord et avant tout parce que je voulais me réimplanter politiquement sur le département.
Michel Thonon, qui est le maire socialiste de la plus grande ville socialiste des Bouches-du-Rhône, est-ce qu'il n'y aurait pas une logique politique à ce que ce soit lui qui mène cette bataille? C'est ce qu'il semblait penser. Vos amis lui ont fait quoi là, sur le plan à Paris pour qu'il renonce là. Pourquoi
il avait effectivement les trois candidats élus locaux de sur la circonscription avaient tous une légitimité forte.
Jean-Pierre Mathy, Gérard Frisoni et Michel Thonon.
Et Michel Thonon, tous avaient une légitimité forte et distincte. Michel Thonon, c'est le maire de la grande ville. Salon de Provence, d'ailleurs le maire de la ville, de la plus grande ville socialiste des Bouches-du-Rhône. Donc il avait cette légitimité électorale. Jean-Pierre Maggi, il a la légitimité politique. C'est le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Ex-proche de Jean-Noël Guérini.
Ex-proche de Jean-Noël Guérini, vice-président du Conseil général, maire de Velo, conseiller général d'un des cantons. Bon. Donc il avait cette légitimité-là. Le troisième, Gérard Frisoni, il avait la légitimité militante. Si on passait au vote, il a 600 cartes sur 800 sur la circonscription, c'est lui qui est élu. Voilà. Donc chacun avait sa légitimité. Moi, j'avais la mienne, qui était celle dont on a parlé à l'instant. Et c'est celle-là qui a prévalu dans le contexte. Voilà. La réalité, c'est qu'on l'a demandé d'abord.
On a peu de temps, moi, l'émission. Vous allez vous rapprocher. Vous n'avez pas choisi votre suppléant. Ça pourrait être Michel Thonon.
Rappelons aujourd'hui que Michel Thonon s'est désisté en votre faveur. Hein.
Oui.
Il a dit même qu'il, si on lui demande, il fera le service minimum.
Oui. Donc, je ne désespère pas qu'il fasse un peu plus que le service minimum.
Est-ce qu'il y aura une récompense à ce service minimum?
C'est pas un problème de récompense. On a besoin d'absolument tout le monde pour gagner cette circonscription qui est extraordinairement difficile. Extraordinairement difficile. Si l'ensemble, si on fait l'unité de la gauche et donc des socialistes sur le territoire, il y a un match. Si on ne fait pas l'unité, il n'y a pas de match et ce sera l'UMP, voire le FN. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a été difficile à admettre pour les uns et les autres. Je les comprends. Je veux dire, c'est pas le maire de Salon, je comprends qu'il ne soit pas content quand on investit quelqu'un qu'il n'a jamais vu et dont il conteste la légitimité. Je le comprends tout à fait. Voilà, maintenant, je pense que ça y est, c'est réglé. J'ai aussi prouvé, d'une certaine manière, par mes premiers mois de présence, j'ai construit une légitimité depuis. Et franchement, je pense qu'on s'entendra bien avec Michel Thonon, qui est une personnalité intéressante du département. Et voilà, mais simplement, il faut que tout... Vous me pressez.
C'est pas simple pour vous, là, le suppléant, vous répondez pas à la question. Vous avez aussi... êtes soutenu par les écologistes.
Oui.
Dans les Bouches-du-Rhône, vous faites partie des trois. Il y a un accord limité sur un certain nombre trois circonscriptions. Il y a un accord PS. Ils auraient peut-être aimé être aussi... vous pensez que leur 2%, les décrédibilise ?
Pas du tout. C'est vrai que le score est faible. La réalité, c'est que l'écologie politique en France pèse bien sûr beaucoup plus que ça, y compris sur cette circonscription où elle est relativement bien implantée. Donc, c'est pas le sujet. Moi j'ai un choix. Je ne l'ai pas encore tranché, mais j'ai trois choix.
Alors, ça va se faire quand, concrètement ?
Pour pouvoir démarrer la campagne législative, c'est-à-dire avant le deuxième tour. Dans les 10 jours qui viennent.
Dans les 10 jours qui viennent ? Ouais. Vous avez déjà... vous vous entretenez avec qui pour ce genre de décision ?
Avec un peu tout le monde, j'essaie de mettre tout le monde.
Alors,
à bord.
Alors il y a le cœur et la raison
c'est un
balance
peu ça.
Vers qui
c'est un peu ça. J'ai trois grandes options. L'option territoriale, c'est de prendre quelqu'un à Salon, évidemment. Michel Thonon, et s'il ne souhaite pas, Françoise Floupin, qui est son adjointe principale. Ensuite, il y a l'option politique. Moi, Terra Nova est une fondation sociale écologiste. On travaille autant avec les socialistes qu'avec les écolos. Daniel Combani en fait partie. Yannick Jadot va venir pour ma campagne. Noël Mamère aussi. Voilà, on est très proches. Donc le fait d'être social, d'avoir une investiture et socialiste et écologiste est importante pour moi. Donc dans l'idéal politiquement, j'aurais pris un suppléant ou une suppléante verte. Après, il y a aussi le contexte politique de ces derniers mois. Sans Jean-Pierre Magie qui m'a soutenu, Mordicus qui a pris des risques politiques. Sans lui, je serais reparti avec le goudron et les plumes.
Alors,
voilà. Et donc c'est
Olivier Ferrand, lequel?
Je suis en cours de réflexion. Je vous le dirai d'ici 10 jours.
Par exemple.
Lequel
vous avez éliminé d'office, par exemple?
Par exemple, une des trois pistes.
Vous ne pensez pas, si, enfin, très très court, parce qu'on a peu de temps, qu'il faille remettre en cause l'accord national entre les Verts et le PS en faveur, pour le rééquilibrer en faveur du Front de gauche. Très court.
Je pense que c'est pas possible. Dans l'idéal, il faudrait le faire, mais ça n'est pas possible parce qu'une fois que les candidats sont lancés, vous leur dites pas hey, les gars, ça suffit, je vous retire. C'est pas possible, ça.
Une question. Gouvernement Hollande, si ça a lieu, Olivier Ferrand au gouvernement, oui, ça c'est une envie.
Il ne vous a pas échappé que ça ne dépend pas de moi.
Mais l'envie, elle dépend de vous.
Non, mais l'envie, bien sûr. Le travail de réflexion politique fait à Terra Nova a pour déboucher l'action, évidemment.
Secrétariat particulier, enfin un poste à
Maroc. On n'en est pas là, hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même un deuxième tour.
Olivier Ferrand, jusqu'à présent, vous avez théorisé la politique de Terra Nova. La confrontation avec le terrain, ça se passe comment?
Ça se passe chaudement, vous avez vu, l'accueil a été... j'avais eu déjà une expérience assez formatrice, vous l'avez mentionné, dans les Pyrénées-Orientales. Le travail, au-delà des rapports de force politique, le travail de terrain est très intéressant. On a lancé, et Terra Nova a milité pour ça, du porte-à-porte d'envergure. Le porte-à-porte, ça permet d'avoir un contact privilégié avec les citoyens. Quand vous distribuez des tracts sur les marchés, vous parlez à peine. Quand vous êtes chez les gens et que vous avez 2, 3, 5 minutes pour discuter, c'est vraiment super.
Ce porte-à-porte va vous conduire jusqu'au municipal, j'imagine ? La mairie de Volo, non ?
Le cumul des mandats est quelque chose que j'exclus, mais j'espère bien devenir député.
Allez, on se retrouve le mois prochain avec un tout autre invité. Bye.
La Grande Tchatche, le ravi, Radio Grenouille.